Alors aujourd'hui, les circonstances en Ukraine l'imposent. On vous parle d'Europe de la défense avec Jocelyn Chesnel, qui est cofondateur de Braise Europe Finistère. Jocelyn, l'Europe de la défense par-ci, l'Europe de la défense par-là. Entre nous, est-ce que ce n'est pas un peu une chimère ou une lubie, cette Europe de la défense dont on a le sentiment d'entendre parler depuis toujours, en fait ?
En tout cas, on a longtemps pensé que c'en était une. D'ailleurs, c'est la France hein, qui plaide sans cesse pour cette Europe de la défense, qui l'appelle même de ses vœux depuis les débuts de notre Union, dès même l'époque de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, hein, donc dès les années 1950. Par manque de temps, et même si c'est un sujet tout à fait passionnant, on va sans doute pas revenir hein, sur les nombreuses raisons de l'échec initial de mise en œuvre de cette Europe de la défense. Mais en octobre dernier, à titre d'illustration, le président de la République française tâchait une énième fois de convaincre de l'utilité de la naissance d'une véritable stratégie européenne de défense, au-delà des stratégies qui existent hein, pourtant bel et bien, mais soulignons-le, semble manquer d'efficacité face à des situations comme celles qu'on connaît actuellement, à la star de la PESC pour politique étrangère et de sécurité commune. Par manque de temps, aujourd'hui toujours, on ne reviendra pas non plus, hein, en tout cas c'est ce que je suggère, sur cette politique. Même sentiment vis-à-vis des pourtant essentielles missions d'opérations européennes sur les théâtres extérieurs, à l'instar de Takuba au Sahel, composé de soldats de diverses nationalités européennes, ou Altea en Bosnie-Herzégovine, parmi d'autres. Cette dernière, hein, Altea, ayant par ailleurs été plus ou moins renforcée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, vraisemblablement par crainte de déstabilisation pro-russe dans ce pays vulnérable et instable, enclavé dans notre UE. Mais il est important qu'on évoque des réalités qui existaient, n'existent parfois plus, mais aussi parfois demeurent, voire s'amplifient, comme c'est effectivement le cas depuis l'invasion meurtrière de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Disons d'abord une chose hein, le plus clairement du monde, parce que j'admets que j'y tiens particulièrement depuis qu'on nous répète à l'envi, ici et là, que la guerre est aux portes de l'Europe. Non, la guerre est en Europe. Cela dit, elle est aux portes de l'Union européenne. Des bombes tombent à une trentaine de kilomètres de la Pologne. Une fois ceci dit, ainsi me paraît-il vraisemblablement nécessaire, hein, surtout alors qu'il n'est pas rare qu'on entende tout et son contraire en ce moment, qu'on évoque rapidement justement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, créé en 1949, hein, pour rappel, par souci sécuritaire de la part d'un bloc de l'Ouest qui devait se reconstruire et chercher paix et prospérité, soit dans les premières années de la guerre froide. Et aujourd'hui, l'imbrication entre cette logique otanienne et la logique européenne, et même qu'on évoque hein, le concept d'autonomie stratégique, entre autres aspects.
Très bien, mais alors cette imbrication entre défense par le biais de l'OTAN et défense européenne, est-ce que c'est antinomique ? Est-ce que c'est ou bien l'une ou bien l'autre, ou bien est-ce que ça peut être complémentaire ?
Il n'y a pas de bonne réponse. Je peux néanmoins tenter de vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il en est en matière de coopération militaire armée depuis plusieurs années maintenant au sein de l'UE, de ce qui est acté depuis un moment, de nos interventions passées, et surtout, et bien sûr, considérant l'actualité brutale hein, du front ukrainien, de ce qui a été consacré tout récemment, et donc à venir. C'est une phrase que j'aime bien, c'est Jean Monnet, père fondateur de l'Union européenne, qui avait ces mots. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. C'est exactement ce qu'on vit. Peu à peu, au-delà des divergences habituelles au sein des 27, il se trouve qu'une forme de convergence paraît voir le jour. Donc sans pour autant parler tout de suite d'armée commune aux 27, ce qui paraît à première vue extrêmement ambitieux, hein, quoi qu'on pourrait poser la question vu la soudaineté des changements de paradigme récents, déjà, nous livrons aux résistants ukrainiens des armes défensives puissantes, efficaces, pour qu'ils puissent se défendre face à l'envahisseur russe. Mais ce sont des logiques étatiques. Toutefois, une stratégie commune d'achat et de livraison s'est effectivement peu à peu décidée. C'est donc tout de même une initiative européenne qui a pour l'instant consacré l'achat commun d'armes létales défensives à hauteur d'environ 500 millions d'euros et à laquelle participent les seuls États volontaires. C'est une liste qui s'allonge par ailleurs. Et puis, des États historiquement pacifiques, comme l'Allemagne, c'est à signaler, pacifiques pour des raisons historiques évidentes, qui prennent tant conscience du danger actuel que leurs généraux vont jusqu'à assumer la très vive vulnérabilité de leur matériel, de leur armée, et que leur parlement adopte un peu au pas de course, il faut dire, des budgets militaires jamais vus dans ces contrées. Donc des États comme la Finlande, aussi neutres depuis des décennies et des décennies, qui sous-entendent vouloir intégrer l'OTAN et livrent à profusion des armes à la résistance ukrainienne. Par ailleurs, hein, s'il y a un État membre de l'Union européenne qui a toujours refusé toute participation à une quelconque stratégie militaire commune, c'est le Royaume du Danemark. Eh bien, figurez-vous que la donne, elle est si largement changée que le gouvernement du pays a décidé de soumettre cette participation à la politique de sécurité commune à référendum. Il aura lieu, ce référendum, le 1er juin qui arrive, et je veux faire le pari que, vu l'ampleur prise par la menace russe, les Danois choisiront l'action commune en la matière. Même si, bon, c'est à alléger comme assertion, puisqu'il est à savoir qu'au Danemark, la subtilité, c'est que, à contrario de la France et d'autres pays, hein, notamment latins, l'extrême droite défend au Danemark, coûte que coûte, l'appartenance otanienne, et exècre celle à l'Union européenne, en tout cas bien fréquemment. En France, les deux appartenances, hein, à la fois l'appartenance à l'OTAN et celle à l'Union européenne, sont aussi exécrées l'une que l'autre par cette part de l'échiquier politique. En plus, le petit pays, puisque c'est un petit pays, environ 6 millions d'habitants, le Danemark, il a fait connaître son envie d'accueillir, c'est une première, des troupes américaines de façon permanente sur son sol, ce qui est certes assez dingue, si on me permet le mot, mais n'est pas sans poser question à la fameuse volonté partagée par d'autres Européens d'autonomie stratégique, et je vais y venir.
D'accord, mais avant cela, qu'en est-il de l'OTAN au cœur du sujet de la guerre en Ukraine ?
Eh bien, sur l'OTAN, au cœur de cette guerre un peu malgré elle, hein, il faut le dire, dans ce cadre très mouvant, très évolutif, deux grands camps européens s'affrontent encore et toujours, celui du statu quo, qui se contente bien de la défense exclusive, normalement consacrée par l'appartenance à l'OTAN, et celui de la défense européenne, qui veut voir émerger et perdurer une stratégie autonome propre européenne, et non plus Atlantis seulement, tout en tâchant tout de même de permettre la conciliation des deux dynamiques. C'est un peu la problématique de la guerre en cours en Ukraine, si on me permet là encore le terme de problématique. Pour les Européens, le choix en faveur duquel opérer est en fait assez cornélien, l'OTAN ou l'Union européenne. Et bien dans le second camp, celui de la fameuse autonomie stratégique, la France paraît souvent bien seule. En même temps, il faut bien comprendre ô combien il peut être compliqué d'aller expliquer à d'anciennes républiques soviétiques ou à d'autres anciens états satellites de l'époque, parfois considérablement traumatisés par de diverses exactions, à l'instar des Pays-Baltes, de la Pologne, de la Slovénie, de la Roumanie, de la Bulgarie ou encore de la Slovaquie et de la Tchéquie, bien c'est compliqué d'aller leur dire qu'on s'en sortira sans les Américains, avec pour seule puissance nucléaire la France, pour ne pas dire avec la France pour seule puissance militaire tout court. La France qui, en outre, hein, c'est un autre sujet, mais qui est assez lié, est le seul État membre de l'UE, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour certains, hein, en Europe centrale et orientale, il faut entendre qu'il y a de temps à autre comme un goût de déjà-vu avec cette idée de puissance européenne protectrice qui en sus paraît souvent refuser toute idée de commandement et d'exercice partagé de son armement.
Mais l'idée de l'autonomie stratégique, il semblait pourtant qu'elle avait commencé à se dessiner ces derniers mois, non ?
En fait, pour être exact, disons qu'il y a des événements assez saillants qui ont paru donner raison aux tenants de cette dynamique de l'autonomie stratégique, les Français les premiers. Sans les énumérer, deux au moins sont singulièrement marquants. D'abord, le retrait assez brutal et chaotique des Américains d'Afghanistan en août dernier, faisant ainsi montre du désengagement de ceux-ci dans les questions de sécurité communes aux Occidentaux globalement, qui ont par ailleurs poussé les Européens à se débrouiller seuls et avec difficulté de temps à autre pour rapatrier leurs ressortissants, ainsi que les Afghans qui avaient appuyé les forces européennes depuis plus de 20 ans que les talibans n'étaient plus au pouvoir. Mais c'est sans non plus mentionner l'épisode de la fin de l'année 2021, de l'annulation unilatérale par l'Australie du contrat dit du siècle entre la France et l'Australie, justement, quant à la vente de sous-marins de technologie française. C'est d'ailleurs, hein, sans dire combien, l'OTAN, pour le moment, paraît bien peu désirer s'engager dans une quelconque défense de l'Ukraine, ce qui est sans doute audible au-delà de l'horreur, puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et n'a donc aucune garantie de sécurité. L'OTAN envisageant effectivement ce non-engagement par peur de voir le conflit dégénérer. Et c'est sans même vous parler de ce qui est peut-être le plus important, dans ce cadre déjà vaste, mais que peu de spécialistes ont eu le temps eux-mêmes de regarder, à mon sens, tant c'est contemporain, à savoir ce qu'on appelle la boussole stratégique.
En quelques mots, qu'est-ce que c'est cette boussole stratégique européenne ?
En fait, c'est même très très contemporain, je disais que c'est contemporain, puisqu'elle a été adoptée le 24 mars dernier au soir par le Conseil européen, qui, pour rappel, réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27, donc adoptée jeudi dernier. Elle est une stratégie prévue pour durer jusqu'à l'horizon 2030, au moins. En gros, cette boussole stratégique européenne, c'est le premier des livres blancs de la défense. Je ne sais pas si tout le monde a conscience de l'historicité de cette étape. Vous savez, l'Union européenne, elle aime bien concocter des livres blancs de prospective à horizon plus ou moins lointain, à comprendre comme des boussoles de l'action qu'elle mène sur l'avenir de l'Europe, sur des sujets aussi diversifiés que l'intelligence artificielle et les retraites, etc. Mais sur la défense, ça a longtemps été impensable. Travail engagé à partir de 2020, la pandémie que l'on sait, que l'on traverse encore, l'avait mise en veille, l'avait mise en stand-by, si on peut parler de la sorte, avant que la guerre menée par les Russes depuis le 24 février en Ukraine ne vienne rappeler son utilité, pour ne pas dire ne vienne rappeler son urgence. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'on aime souvent dire l'UE divisée sur tout et sur rien, ce qui est normal, hein, quelque part, à mon sens, quand sont représentés 27 intérêts nationaux qui, pour autant, se sont réunis au nom de démocratie, en tout cas de modèles démocratiques, qui souhaitaient converger un maximum pour éviter les conflits qui les avaient laissés agonisantes, hein, pour rappel. Donc, qu'on adore donc dire l'UE divisée et qu'elle a pourtant donc réussi à produire ce document commun aux 27 quant aux menaces auxquelles elle est confrontée. En gros, cette boussole est une première pierre à une culture commune en matière de défense qui reste à construire. Tout reste à construire.
Mais concrètement, est-ce qu'elle a donné quelque chose, cette boussole stratégique ?
Concrètement, oui. D'abord, la constitution d'une force militaire armée opérationnelle composée de 5000 combattants européens. Ensuite, l'augmentation substantielle de nos dépenses militaires. Aujourd'hui, à 27, hein, pour l'illustrer, notre budget militaire, il est d'environ 200 milliards d'euros par an. C'est-à-dire, hein, s'il s'agissait de se consoler en se comparant, environ autant que les Chinois, et surtout quasiment 4 fois plus que les Russes, mais toujours quasiment 4 fois moins que les Américains.
Peut-être un mot de conclusion à ce sujet passionnant qui va sans doute occuper largement les débats, Jocelyn ?
Oui. Que de naine, l'Europe comprise par le prisme de l'Union européenne peut se faire géante. Que tout ce que le dictateur russe voulait éviter, il l'a obtenu. Renforcement de l'OTAN, nouveau processus d'adhésion à l'UE, Géorgie, Moldavie, bien entendu Ukraine, et bien sûr, et même surtout, cohésion européenne. Et que, pour protéger nos démocraties libérales, il est évident qu'il faut travailler ensemble, vouloir et défendre la démocratie comme un bien commun précieux à porter, et affirmer combien la défense n'est plus un tabou, ne doit d'ailleurs plus en être un, doit nous réunir à terme, comme elle paraît nous réunir depuis le 24 février, c'est-à-dire depuis le début de la guerre que les Russes mènent seuls, contre un fantôme, au détriment de milliers et de milliers de vies. C'est l'Europe post-24 février 2022 qui est née, et on l'aura attendue longtemps.
Merci Jocelyn Chesnel pour cette analyse très complète sur la future défense de l'Union européenne. Un mardi par mois dans l'EM, on retrouve donc l'association Braise Europe Finistère. Le prochain rendez-vous, ce sera le 31 mai.